je pense qu'avec l'humour, il y a quelque chose qui se crée où on a vraiment le droit, soudain, de se dire que toutes ces choses qui nous oppressent au quotidien et qui sont très difficiles, je trouve que le drag, c'est un des rares endroits où on peut mettre ces choses à distance et se dire, mais en fait, déjà, un, ce soir, c'est pas grave. Et deux, en plus, j'ai le droit de m'en moquer. J'ai le droit de, genre, les prendre, les jeter par terre et les écraser sous mon pied si j'ai envie. Et c'est ça qui fait la force du drag et c'est aussi ça qui fait la force de l'humour. En fait, moi, j'ai envie de prendre tous ces outils de pouvoir, de les prendre pour moi, de me foutre de la gueule de ce que je veux et d'être content de ce que je veux et d'être en colère de ce que je veux pour pouvoir mettre tout ça à distance et pouvoir faire du bien aux gens, pouvoir créer une catharsis.
Bonjour à tous, je suis Diego et bienvenue dans Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Des amants maudits, des familles qui s'opposent et un gros problème de communication, bon vous connaissez la chanson. Mais si je vous dis qu'il existe une version transpédéguine absolument géniale de Roméo et Juliette, auditeuristes du Lobby, vous n'allez pas être déçus. Aujourd'hui on va parler d'un show 100% drag king intitulé Roméo et Julio, l'amour plus fort que l'extrême droite. Une pièce de théâtre portée par les Kings de la King's Factory et écrite par Arthur Rimbaud. Le show s'est déjà produit deux fois à Paris et une troisième date arrive le 21 mars et il paraît que d'autres dates sont à venir. C'est un show hyper drôle que je tenterai de résumer ainsi. Dans un contexte politique où Marine Le Pen devient présidente de la République, l'extrême droite prospère et l'extrême gauche prépare sa revanche. Malgré l'opposition de ces deux clans, Julio de Couillard, fils de Bernard Arnault de Couillard, partisan de Marine Le Pen, tombe éperdument amoureux de Roméo, le fils adoptif d'islamo-gauchiste, grand militant d'extrême-gauche. Là, je sais que vous mourrez d'envie de savoir ce qu'il advient de ce couple iconique. Alors pour vous faire patienter, d'ici les prochaines représentations, nous recevons ce soir le drag king, Arthur Rimbaud, pour nous parler de la pièce, mais aussi de la scène king parisienne. Donc salut Arthur, et merci d'avoir accepté de venir dans le lobby.
Bonjour.
Le show est créé en collaboration avec la King's Factory et le Cabaret des Possibles. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Alors, la King's Factory, c'est une association parisienne qui est autour de drag king. C'est un collectif et en fait qui produit énormément de spectacles drag. Donc, ils nous ont aidés à produire Roméo et Julio en se plaçant sur la billetterie, en nous aidant à avoir une billetterie parce qu'eux, ils ont une licence de spectacle. Mais c'est une association qui, en général, va encourager le king partout dans Paris. Par exemple, ils ont une scène qui est très connue à Paris, qui est une fois par mois à la mutinerie, qui s'appelle justement la King's Factory et qui aide les personnes qui commencent le drag à se produire pour la première fois sur scène. C'est une association qui cherche à encourager le king et encourager les nouveaux kings à prendre de l'espace sur scène et à se produire et qui va encourager les kings existants et les projets des kings existants à prospérer.
Ok, et du coup, dans quel contexte s'est créée la pièce ?
Alors, dans quel contexte s'est créée la pièce ? La pièce s'est créée par moi qui attends le bus à la salle de sport, n'est-ce pas ? En fait, j'ai commencé le drag il y a 2 ans à peu près, un peu plus de 2 ans. De fait, en fait, avant, j'allais dans des soirées en drag, mais je ne faisais pas de perf. J'ai commencé à perf il y a 2 ans. Et tout de suite, moi, j'ai commencé à faire des perfs assez écrites avec des voix off, des histoires, etc. Et petit à petit, je ne sais pas comment, m'est venue l'idée que j'avais envie de pousser la chose plus loin. C'est-à-dire que je n'avais pas envie de faire des perfs de 5 minutes. Il faut savoir que moi, j'écris dans la vie en dehors du drag. C'est un peu mon métier, entre guillemets, pour plein de raisons différentes. Et du coup, j'ai eu envie de pousser ça plus loin. Et j'ai eu envie d'écrire une pièce de théâtre. Et je me suis mis à avoir des idées de vannes complètement stupides. Et petit à petit est né comme ça Roméo et Julio. Et c'est... mes copains, donc les personnes qui sont dans le cast de la pièce, qui m'ont vraiment encouragée à pousser ce projet et à finalement l'écrire. Et l'année dernière, donc en février 2023, j'ai écrit la pièce, je l'ai montrée aux gens du cast et ils m'ont tous dit « il faut qu'on le fasse, on va le faire ». Et là, a commencé les répétitions la pièce s'est montée petit à petit comme ça.
C'est en quelque sorte une pièce de potes. Comment s'est passé le casting ?
C'est exactement une pièce de potes. En fait, moi, l'idée, c'était d'écrire pour mes amis. Donc, en fait, j'ai écrit les rôles pour eux. C'est-à-dire, j'ai écrit les rôles en pensant à eux, en pensant à ce qu'ils véhiculaient dans leur drag, en pensant à ce qu'ils aimaient faire aussi dans le drag. Donc, du coup, pour leur trouver vraiment des personnages qui étaient adéquats et aussi, bizarrement, pour que ce soit moins difficile parce que tout le monde n'a pas fait de théâtre dans le drag king. On peut arriver au drag king sans avoir fait de théâtre. Et l'idée, c'était aussi qu'ils puissent prendre des rôles et y prendre plaisir. Moi, je leur ai répété 25 000 fois. Le but, c'est avant tout qu'on s'amuse et qu'on fasse quelque chose qui nous fasse plaisir à nous. Et là, à l'heure actuelle, ça a l'air de pas mal plaire aux gens, donc on est assez contents de ça.
Est-ce qu'il y a eu des versions antérieures, entre guillemets, avant la première de janvier ?
Non, La pièce, je l'ai écrite et elle n'a quasi pas bougé. On a changé quelques répliques, mais il y a eu... Non, il n'y a pas de version antérieure. Ça a toujours été la même pièce.
Du coup, en temporalité, c'était il y a un an, c'est ça que le projet est né ?
Oui, je l'ai écrit il y a un an, mais disons que le projet est né dans ma tête il y a vraiment quasiment 2 ans. Hein. Et c'est flippant du coup, hein, parce que en fait, moi, je me disais, oh, peut-être que dans 2 ans, ça ira mieux et bah, ça sera moins pressant de faire ce genre de choses, de faire des choses politiques et de prévoir justement une France où Marine Le Pen prend la tête du pays. Et le fait est que bah, quasi 2 ans plus tard, c'est même plus probable et c'est même plus urgent, je pense, de faire ce genre de choses. De dénoncer ce genre de choses et de faire ce genre de parodie et de dénonciation dans le milieu drague.
Je peux pas m'empêcher de rapprocher Roméo Julio de la pratique de la fanfiction. Et est-ce que c'est une idée que tu partages et selon toi, c'est quoi la force des réécritures ?
Alors, pour moi, c'est pas du tout une fanfic. Hein. Pour moi, en fait, c'est juste... Effectivement, alors moi, je travaille énormément avec la réécriture déjà comme motif en tant que moi, personne qui fait de l'écriture, parce que je trouve que c'est assez facile, parce que ça permet de prendre des libertés et tout, etc. Et effectivement, alors je dirais pas que c'est de la fanfic. Moi, je comparerais plus ça à... Alors, je sais pas... Bon. Je vais dire un truc, c'est peut-être pas complètement historically accurate, mais genre, en gros, au Moyen-Âge, je crois que c'était le carnaval, il y avait une fête où une fois par an, en fait, les gens changeaient de rôle. Et en fait, par exemple, les riches pouvaient devenir les pauvres, les rois pouvaient se retrouver à être des mendiants et tout, etc. Il y avait cette espèce de truc de transformation. Et en fait, moi, quand je fais de l'humour, je pense souvent à ça, parce qu'en fait, j'avais un prof d'histoire qui nous avait dit que, en fait, sans cette fête, au Moyen-Âge, les gens auraient pété un câble. Parce qu'il y avait le servage, le système féodal, qu'en fait, c'était une société qui était profondément inégalitaire, qui était extrêmement classiste et qui était, en fait, assez affreuse pour toute une partie de la population. Et en fait, avoir cette journée-là, ça leur permettait, eux, d'avoir un espèce d'outlet, en fait, de choses, de quelque chose pour se libérer. En fait, et c'était quelque chose qui leur faisait profondément du bien, quelque chose qui était profondément cathartique. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai cherché à faire. Et je me suis dit, il y a quoi de plus queer qu'une histoire d'amour, en fait ? Et du coup, c'était tout indiqué de faire une histoire d'amour dans ce contexte-là. Mais moi, à la base, ce que j'ai envie de faire, au travers de cette pièce et au travers de mon drag, c'est vraiment créer une espèce de catharsis où je pense qu'avec l'humour, il y a quelque chose qui se crée où on a vraiment le droit, soudain, de se dire que toutes ces choses qui nous oppressent au quotidien et qui sont très difficiles, en fait, parce que je pense que c'est très difficile d'être queer aujourd'hui en France. Enfin, nous, on est quand même... Enfin, on peut être protégé, plus ou moins, si on vit en ville, etc. Mais bref, il y a plein d'intersectionnalités là-dedans. Et justement, je trouve que le drag, c'est un des rares endroits où on peut mettre ces choses à distance et se dire... Mais en fait, déjà, un, ce soir, c'est pas grave. Et deux, en plus, j'ai le droit de m'en moquer. J'ai le droit de genre les prendre, les jeter par terre et les écraser sous mon pied si j'ai envie. Et c'est ça qui fait la force du drag et c'est aussi ça qui fait la force de l'humour. Et du coup, pour en revenir à ta question, pour moi, c'est moins une histoire de réécriture ou de fanfic ou de tribute que de se dire, en fait, moi, j'ai envie de prendre tous ces outils de pouvoir, de les prendre pour moi, de me foutre de la gueule de ce que je veux et d'être content de ce que je veux et d'être en colère de ce que je veux pour pouvoir mettre tout ça à distance et pouvoir faire du bien aux gens, pouvoir créer une catharsis. Parce qu'on n'a aussi pas assez de représentations d'amour queer dans la littérature, dans les films, etc. Et surtout d'amour queer heureux, en fait. Et j'avais aussi envie qu'il y ait une extase là-dedans, quoi.
Je trouve qu'on le ressent hyper bien dans le show que j'ai eu la chance de voir, du coup, il y a 2 semaines. Et concernant l'humour, est-ce que les kings qui ont participé à la pièce ont aussi intégré un peu de leur humour, des blagues, des choses comme ça, ou tout était déjà préécrit ? Est-ce qu'il y a eu un travail après quand même, pendant les répétitions en fait ?
Ah bah bien sûr, hein. Ça il y a un travail. Eux, ils ont apporté énormément, hein. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ils prennent les personnages, ils les portent avec... Comme moi, même, je ne les avais pas vus. Hein. Moi, je ne voyais pas toute cette construction de personnages. Donc bien sûr, ils ont ajouté leur mimique, on a changé quelques répliques pour que... Ou alors elle soit plus drôle pour eux, ou alors pour qu'elle soit plus facile pour eux à dire. Et bien sûr, tous ces personnages-là, ils les ont portés à un niveau que moi, je n'imaginais pas possible, en fait. Ils ont vraiment mis d'eux-mêmes dans la pièce, et c'est pour ça aussi que je dis... c'est notre œuvre à tous, ils sont vraiment trop forts, et c'est aussi grâce à ça que la pièce fonctionne aussi bien, bien entendu.
Est-ce qu'il y a un personnage que tu affectionnes particulièrement, peut-être dans son évolution, de comment tu l'imaginais jusqu'à comment il a été incarné, ou alors dans ce qu'il représente ?
Alors, moi j'aime tous mes personnages, hein. Donc c'est un peu une question. Moi de toute manière, quand j'écris un truc, je me dis si je suis pas full in love de tous mes personnages, c'est que j'ai pas assez bien fait mon travail. Parce qu'il faut qu'ils soient assez dans leur individualité pour qu'on puisse s'attacher à chacun. Par contre, que le public ait des personnages préférés, ça, j'en doute pas. Je suis sûre que tout le monde ressort de la pièce en disant « Moi, j'ai adoré telle personne. » Mais l'idée, justement, c'est plus ça. L'idée, c'est que tous les personnages soient assez forts pour que le public ressorte et dise « Moi, mon préféré, c'était lui. Non, moi, mon préféré, c'était lui. » etc., etc.
Est-ce que faire le lien entre drague et théâtre a toujours été une envie chez toi depuis que tu as commencé à écrire ou à faire du drague ?
Oui. Alors, entre drague et théâtre, je ne sais pas. Mais entre drague et écriture, oui, bien sûr. Hein. Moi, je ne sais rien faire en drague. Je ne sais rien faire. Je suis un drag king nul. Genre, globalement, je ne sais pas danser. Le lip-sync, je ne sais pas trop faire. Je ne sais pas chanter. Je ne sais pas... En fait, je ne sais rien faire à part écrire des blagues. Et du coup, je m'en sors à peu près comme ça. Et c'est la seule chose que j'ai envie de faire. C'est la seule chose qui, je pense, est ma force dans mon drag. C'est ma capacité à raconter des histoires. Le reste, je suis nulle. Voilà, à peu près.
Et du coup, pour parler de ta pratique, comment est-ce que tu arrives à construire un personnage du coup, qui est basé beaucoup sur l'écriture, et comment est-ce que tu as réussi à l'incarner petit à petit sur scène, alors qu'on a une représentation des drag kings très présent sur scène dans la danse, le lip-sync. Donc comment toi, est-ce que tu t'appropries tout ça ?
Comment je me suis appropriée l'écriture dans le drag ? Ben, en fait, si tu veux, moi je travaille énormément avec justement la forme de la parodie. Pour moi, ce que j'aime le plus, c'est à la fois faire de la parodie, donc déjà, ou alors reprendre les trucs des hétéros et faire que, en sorte que ce soit à nous. Donc, par exemple, j'ai une perf où je fais une parodie de Koh-Lanta qui s'appelle Queer Lanta, et le but, c'est de survivre 40 jours chez les hétéros. Voilà. Et donc, c'est ça le concept de la perf. Et sinon, moi, j'aime bien faire des perfs qui éduquent. Alors, c'est bizarre de dire ça, mais genre qui montrent des aspects de la culture queer ou revendiquent des aspects de la culture queer desquels les gens n'ont pas forcément entendu parler. Par exemple, j'ai fait une perf où justement, je fais Arthur Rimbaud. Je raconte son histoire. J'ai fait des perfs où je fais Colette aussi. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en avant la culture queer. C'est vraiment de renseigner les gens sur la culture queer, ou alors de reprendre les codes de la culture queer et les appliquer à moi. J'ai aussi fait des perfs sur ma vie sentimentale. Je faisais des espèces de comédies musicales où, bah, en gros, je disais qu'est-ce que c'est de dater dans le milieu queer. Et il y avait des voix off où des gens disaient « Ouais, je peux pas te dater parce que t'as Vénus en Capricorne et j'ai déjà 3 personnes en polyamour. C'est trop compliqué pour moi en ce moment. » Enfin, tu sais, toutes les excuses que t'entends quand tu passes un peu de temps sur les applis de rencontre, voilà. Et du coup, oui, c'est plus comme ça que j'intègre l'écriture dans mon drag. C'est vraiment en essayant de raconter des histoires au maximum ou d'éduquer un peu le public. Même si le public est déjà éduqué, mais enfin, de transmettre quelque chose, en fait. De faire découvrir des nouvelles choses.
Ça serait quoi, du coup, tes imaginaires queer de prédilection en des personnages, par exemple, que t'aimes énormément ou des univers qui nourrissent ton travail scénique ?
Moi, quand j'ai commencé, j'aimais beaucoup le glam rock. Je faisais beaucoup de trucs en référence à... Enfin, moi, j'adore le glam rock. J'adore les Anglais des années 80, là. Toute cette culture hyper semi-queer. Enfin, c'est bah, tout le glam rock, en fait. C'est assez incroyable. Mais je m'en suis quand même petit à petit éloignée. Et je dirais maintenant que... En fait, je dirais plus qu'à chaque perf, j'essaie de créer un personnage différent qui est adapté à la perf. Je dirais plus que mon outil ultime, c'est vraiment la pop culture. Hein. C'est-à-dire que je regarde autour de moi, je regarde ce qui se passe, je regarde l'actu. C'est aussi mon travail de journaliste à certains moments qui a quand même pas mal nourri ma pratique drag. Et du coup, c'est de ça avant tout que je m'inspire. C'est ça, c'est de ce que les gens disent aussi beaucoup, de ce qui se dit dans la culture queer. Parce qu'il y a vraiment une culture qui est... où il y a vraiment des choses qui reviennent, où on peut vraiment faire des blagues sur ça. Bah, y en a beaucoup dans la pièce, hein, d'ailleurs, des blagues sur la culture queer. Et c'est avant tout tout ça mon référentiel. C'est pas du tout des trucs très glamour. Je pourrais dire des trucs glamour, mais en soi, y a assez peu de choses. Enfin, j'essaie vraiment de construire mes personnages en fonction de la perf que je veux faire et en fonction de ce que je veux dire. Et à partir de là, quand j'ai une idée de perf, je pense... à comment je vais m'habiller, quel make-up je vais faire, quelle musique je vais mettre, quel univers j'ai envie de développer, etc. Mais c'est vraiment à partir d'une idée écrite d'histoire que j'ai envie de faire, souvent.
Comment est-ce que tu t'es lancée dans le drag et comment t'es rentrée dans ce milieu ?
Alors, du coup, moi, j'ai la chance d'avoir deux cousines qui sont queens, ou qui ont fait du queen, une qui fait du queen particulièrement, qui en vit. Hein. Et en fait, pour leur anniversaire, pour leurs 30 ans, je crois que c'était... elles se sont mis en queen, bien entendu, pour sortir. Et j'ai dit, bah, vous savez quoi, moi, je me mets en king, parce que j'avais entendu dire que ça existait. J'avais brièvement vécu aux États-Unis, j'avais vu des spectacles de king et tout, machin. Et j'ai commencé comme ça. Et en fait, j'ai fait ça. Et comme il y a le fameux, mais ça, pareil, on pourrait en faire une perf, hein, la première fois où tu te regardes en king dans le miroir et où d'un coup, tu es là. Mon Dieu, il se passe quelque chose, je ne comprends rien. J'ai juste fait une moustache à la liner sur ma tête. Et d'un coup, j'ai l'impression que mon monde s'effondre et qu'un nouveau... un nouveau chemin s'offre à moi pour le restant de mes jours. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Après, j'ai rencontré plusieurs personnes qui faisaient du drag. J'ai commencé à aller fréquenter la scène king et tout, etc. Au début, je voulais pas perf. Je voulais juste faire du king pour m'amuser. Et en fait, mon daddy, qui est Aiden La Vidange, qui est un très grand drag king parisien, m'a dit, bah non, en fait, à la prochaine scène que je fais, bah, qui était le Cabaret des Possibles, justement, bah tu vas performer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à performer.
Le lobby, tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris.
Modifier comment on marche pour réussir à incorporer une masculinité qui est genre hyper assurée, sûre de soi, pour ensuite récupérer ça dans sa vie de tous les jours. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de en fait, récupérer ce que nous, on ne nous a pas offert, en quelque sorte. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais... Mais ça étant dit, nous, on va passer à la seconde partie qui consiste en fait à développer nos propres masculinités, celles que vous avez choisies, quoi. Nous, avec Lewis, enfin, nos drag kings, c'est pas des drag kings qui incarnent des masculinités qui sont hégémoniques ou dominantes. Et du coup, je me suis demandé comment est-ce que je peux incarner un type de masculinité, mais en fait féminine. Donc, les mouvements que moi, je fais beaucoup, c'est en fait, j'arrive et en fait, je montre mes muscles. Mais attention, je montre mes muscles avec un espèce de petit mouvement de bassin, à la fois très gay, en fait. Et puis pareil, vous pouvez avoir des expressions où vous êtes content, quoi. Vous n'avez pas à tirer la gueule. Voilà, parfait.
On écoutait à l'instant un extrait du documentaire « Devenir roi » de Manon Selly, sorti l'an dernier, qui suit le King Power Bottom. Le documentaire est dispo sur France TV. On mettra le lien sur la page de l'émission sur radiocampusparis.org. L'extrait se déroule lors d'un atelier drag king. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces espaces de transmission ?
Alors, les ateliers, c'est quelque chose qui est très propre à la culture king. Il y en a énormément qui sont organisés à Paris. Donc là, on a l'atelier de Power Bottom et Lewis Raclette, mais il y a aussi Jay Zadelph qui fait des ateliers. C'est quelque chose de très propre à la culture king parce que l'idée, c'est vraiment... On entend vraiment beaucoup sur la scène king que tout le monde est légitime à venir faire du king, tout le monde est légitime à venir faire de la scène et surtout tout le monde est légitime d'expérimenter le king. Parce que le king, c'est avant tout une pratique. Donc avant d'être cathartique dans le théâtre ou la performance, etc., elle est déjà cathartique au niveau personnel. Hein. C'est-à-dire quand on se met en drague, on va avoir une autre perception du monde, on va avoir une autre perception de soi-même. Et ce qui se passe quand... on adopte la perception du monde. Quand on se met en king, ce qui se passe, c'est que d'un coup, on réalise à quel point on peut prendre de l'espace, à quel point on peut parler sans douter de ce qu'on dit, par exemple, à quel point on peut arrêter d'adopter tout un tas d'attitudes qu'on ne savait même pas qu'on avait, en fait, à la base. Mais d'un coup, ça, on va se mouvoir différemment, on va occuper l'espace différemment, on va être moins intimidé, etc. Et ça, c'est une expérience que je pense toute personne, souvent personne affable, hein, parce qu'elles ont été socialisées comme ça, malheureusement, devraient faire, même tout le monde dans le milieu queer pourrait faire cette expérience. Je trouve que c'est assez bénéfique. Et du coup, les ateliers, ils essayent, je pense, vraiment de se centrer autour de cette idée-là, de se dire que, en fait, tout le monde, entre guillemets, a besoin de ça dans sa vie. Tout le monde a besoin d'un moment où en fait il peut manspread dans le RER et faire ce qu'il veut et parler fort et couper la parole aux gens quand ils sont méchants et etc. Se dire non, en fait tu peux prendre de la place. Et du coup, je pense que il y a l'idée que comme nous on est passé par cette déconstruction là et que nous maintenant on l'a intégré à notre vie, on a envie que d'autres personnes puissent faire ça. Et aussi les ateliers, ce qui est incroyable, c'est que souvent, ils forment la nouvelle génération de drag king. Et c'est-à-dire que pour nous, c'est super chouette parce qu'il y a plus de king qui arrive sur la scène. Qui dit plus de king, bah, dit plus de représentations, plus de dates, plus d'initiatives, plus de booking, etc. Donc en fait, c'est un lieu qui bénéficie absolument à tout le monde et qui nous permet aussi de découvrir plein de nouveaux artistes hyper chouettes qui arrivent tout juste sur la scène. Donc c'est vraiment des espaces très utiles pour notre communauté et qui sont vraiment bienveillants et safe. Donc n'hésitez pas à aller en atelier si vous hésitez. Voilà.
Est-ce que c'est dans ce genre de moment, tu parlais tout à l'heure de ton daddy, on connaît aussi les mothers pour les drag queens, est-ce que c'est le moment aussi où il y a tellement une transmission que peut-être qu'on va sous l'aile de quelqu'un d'autre ?
Alors, ça peut être ça. Après, les systèmes de filiation dans le drag king sont vraiment schlag. Hein. Je vais pas te mentir. Moi, vraiment, je ne savais pas que j'étais le fils d'Aiden jusqu'à ce qu'il poste une story et il m'a dit « Mais je te l'ai dit » et j'étais bourrée. Et du coup, en fait, je ne me souvenais pas qu'il m'avait dit ça. Peut-être, potentiellement, il y a eu des moments de filiation, mais je crois que les filiations s'établissent plutôt pas mal avec... Bah, tu vois quelqu'un, tu le trouves cool, il commence juste le drag et du coup, bah, il y a... une espèce de filiation qui se met en place parce que tu soutiens la personne et tout, etc. Mais je crois que dans le Queen, c'est très, très sérieux. Après, j'en sais rien, peut-être chez les Kings, il y a des trucs de filiation qui sont très sérieux. Mais moi, à ma connaissance, les familles drag sont globalement assez floues, assez... Enfin, on est quand même... Ouais, c'est moins... Je dirais qu'il y a moins de... Enfin, la filiation est importante et c'est super d'avoir une famille drag, etc. Mais c'est pas vraiment sérieux, entre guillemets. Enfin, c'est sérieux au point que les personnes concernées le veulent, mais il n'y a pas de choses consacrées que l'on doit faire quand on a un enfant drag ou quand on a un parent drag.
Est-ce qu'aujourd'hui, le monde du drag king se hisse petit à petit dans une sphère où les kings peuvent vivre de leur art, un peu comme les queens, qui sont un peu plus connues du grand public ?
Alors non, malheureusement, vivre du king, à l'heure actuelle, ça n'est pas possible du tout. Déjà, pour le queen, il y a quelques queens hein, qui vivent bien entendu du queen, mais ça reste une minorité. Il y a énormément de queens qui ne peuvent pas en vivre. Donc nous, en fait, au niveau financement et moyens, on est au-dessous. D'ailleurs, c'est un problème parce qu'on a moins de visibilité, etc. Et non, enfin, il n'y a pas de king sur la scène qui... Enfin, ce n'est pas une possibilité... très accessible de vivre du king. Souvent, on fait des petits cachets. Enfin, il n'y a pas encore vraiment de professionnalisation qui est possible et qui existe. Donc non, à l'heure actuelle, on ne peut pas en vivre. Pas vraiment.
Quel conseil donnerais-tu à des personnes qui souhaiteraient se lancer dans le drag ?
Faites-le ! Faites-le ! oui, il faut le faire. On a besoin de plus de personnes sur la scène drag king. On a besoin de gens qui veulent visibiliser le drag. On a besoin de gens qui veulent créer des scènes, des spectacles. Enfin, on a besoin vraiment de plus de drag king et plus d'initiatives. Là, la scène, elle est assez incroyable en ce moment. Il y a une véritable explosion moi, entre le moment où j'ai commencé le drag et maintenant. Donc, ça fait 2 ans et demi, mais j'ai l'impression que c'est des années chiens. J'ai l'impression que ça compte x7. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des drag king qui arrivent de partout, etc. Et il ne faut pas hésiter à se lancer parce qu'il y a quand même un bon réseau au niveau des scènes ouvertes. Il y a des espaces et surtout il y a des super personnes à connaître. Enfin, le drag king, c'est aussi ça, hein. C'est trouver des gens avec qui quand même on a un énorme terrain commun, avec qui on a tout un tas de références, une culture commune. Et moi, je ne connais personne dans le drag qui n'a pas rencontré 10 personnes géniales en faisant du drag, etc. C'est aussi ça. C'est une communauté c'est vraiment une communauté... Voilà. Et il ne faut pas hésiter à faire du drag, il ne faut pas hésiter, enfin, tout le monde est légitime, tout le monde a sa place, tous les types de drag sont légitimes dans le drag king, et il faut se lancer, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà.
Oui, c'est une communauté très soudée, on le voit aussi avec la création de la Torse Solidaire, donc des soirées caritatives pour des personnes trans qui souhaiteraient faire leur torso. Est-ce que tu as déjà participé à ça ?
Alors, moi, j'ai jamais été bookée à la Torse Solidaire, mais j'ai beaucoup d'amis qui, les trois quarts de mes amis, ont été bookés à la Torse Solidaire. C'est aussi une initiative qui est une initiative de la King's Factory et qui, effectivement, comme tu dis, aide les personnes à rassembler de l'argent pour leurs opérations de masculinisation. Moi, j'adore aller à ces soirées, je les trouve vraiment géniales et j'encourage vraiment tout le monde à y aller parce que. Il y a juste des artistes incroyables qui sont bookés. Ce n'est pas que des drag kings. Hein. Là, je pense que la prochaine édition, il y a par exemple des drag queer, il y a Lou Trotignon qui vient faire de l'humour, etc. Donc, on a vraiment des super line-up et c'est vraiment le but, c'est d'encourager les gens à donner parce que du coup, les artistes ne touchent rien du tout. Tout est reversé à la personne pour qui la soirée est organisée. Et vraiment, c'est une aide financière pour ces personnes parce qu'on sait malheureusement à quel point ça coûte cher de faire des opérations de masculinisation à l'heure actuelle. Et du coup, il faut venir au Torse Solidaire pour que ces personnes n'aient pas galéré financièrement pour payer leurs opérations de masculinisation, qui sont encore malheureusement beaucoup trop chères.
Pour terminer, est-ce que tu saurais résumer Roméo et Julio, un peu en une ou deux phrases, avec tes mots ?
Alors, je ne spoil pas la pièce. Ah disons que... Alors, en une ou deux phrases... J'ai l'impression que je vais devoir faire une review, tu sais, où je dis « C'est génial, signé sa maman », tu vois ce que je veux dire ? Ben voilà, c'est ça ma review. C'est génial, signé ma maman. Voilà. Ma maman n'a pas vu la pièce encore. Ma sœur l'a vue. C'est génial, signé ma sœur. Voilà. Non, sinon, qu'est-ce que je peux dire pour la pièce, plus sérieusement ? C'est nul. Venez, parce que c'est nul. C'est vraiment stupide. si vous pensez que vous avez vu un jour un spectacle débile, je pense que vous n'êtes pas prêt. Voilà. Et on est très fiers et on est très contents de ce spectacle. C'est émouvant, je pense, des fois. Et des fois, c'est très camp. Et des fois, c'est très nul. Et c'est plein de choses différentes. Voilà, ça fait pas du tout deux phrases.
C'est mais... pas grave. C'était super. Et le show est absolument génialissime. Donc, j'espère qu'il y aura des dates très prochainement pour tout le monde.
Oui. Alors, justement, on a un peu une annonce à faire qu'on m'a autorisée à faire ce soir. C'est qu'on va revenir à partir de la rentrée. Donc, la date du 21 mars, elle est complète, malheureusement. Et ça va être la dernière jusqu'à la rentrée prochaine où nous serons accueillis par le Théâtre Clavel. Donc, on va pouvoir jouer dans des super conditions. Avec des sièges très confortables. Il y aura une date par mois de septembre à décembre. Donc, on ne vous transmet pas, bien entendu, les dates parce que on n'a pas encore ouvert la billetterie. Mais en tout cas, il y a 4 dates de Roméo et Julio qui arrivent à la rentrée. Voilà.
Ça, c'est une super exclue. Merci beaucoup, Arthur Rimbaud, d'être venu dans le lobby. Toutes les références citées dans l'émission sont à retrouver sur radiocampusparis.org à la page du lobby. Cette émission a été présentée et préparée par Diego et réalisée par Colin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du Lobby sur vos applications de podcast et sur radiocampusparis.org. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur Instagram @lelobbyrcp. À bientôt et n'oubliez pas, bookez les kings.
Oui.